Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission Histoire de France, et d'ailleurs en compagnie de René-Joseph Irmana. Alors on a déjà fait une première partie sur le Second Empire, mais c'est une période assez riche. Eh bien, René-Joseph nous propose la deuxième partie, donc consacrée au Second Empire. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc on va retrouver cette période du Second Empire, qui est une longue période de l'histoire, peu, me semble-t-il, peu évoquée. On en parle assez peu dans les émissions d'histoire. Donc, qui dure donc de décembre 1851, le coup d'État du 2 décembre 1851, par lequel Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été élu, qui était le premier et seul président de la Seconde République, cette Seconde République qui est sortie, disons, de la Révolution de 1848, qui a chassé Louis-Philippe, Louis-Philippe roi des Français, 1830-1848. Donc, Seconde République, à la suite de cette révolution, et président élu n'est autre que Louis-Napoléon Bonaparte. Et en 1851, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon n'attend pas la fin du mandat, son mandat, et il provoque un coup d'État, c'est-à-dire qu'il installe une sorte de dictature qui sera transformée en empire. Donc il va rétablir le Second Empire. Il va suivre les traces de son oncle, Napoléon Ier. Alors, petit, j'avais fait lors de l'émission du 10 mai, une présentation, je vais dire, poser le décor et les personnages de ce Second Empire. Bon, juste sommairement, on y revient un petit peu, petit retour arrière. Donc, j'ai dit Napoléon III, celui qui devient dans Napoléon III est né en 1808. Il est né en 1808 au Royaume-Uni. Donc, il est né à Paris. J'avais dit en Allemagne, il est tout à fait né à Paris. Et il est le fils d'Hortense de Beauharnais. Hortense de Beauharnais et de Louis Bonaparte. Donc il est le fils, c'est une petite ambiguïté, toute simple. En fait, Joséphine de Beauharnais, on le sait, est l'épouse de Napoléon Ier, du premier consul qui deviendra Napoléon Ier, voilà. Et elle a deux enfants de son premier mariage, du vicomte de Beauharnais, l'aîné Eugène et la cadette Hortense. Et Hortense, pour raison d'État, va épouser Louis, le frère de Napoléon. Donc elle va épouser la belle-fille de Napoléon Ier, en quelque sorte, belle-fille en tant que fille de l'épouse. Elle se marie avec Louis, Napoléon, le frère. Et ils ont trois enfants. Et donc le dernier, le survivant, sera notre Louis-Napoléon, qui deviendra Louis-Napoléon III, qui deviendra Napoléon III. Il est donc le petit-fils de Joséphine de Beauharnais et le neveu de Napoléon Ier. Voilà. Je ne rentre pas dans tous les détails, je voulais parler de son demi-frère Morny, qui aura une grande importance dans l'Empire, et notamment qui sera une cheville ouvrière, l'élément moteur du coup d'État. Alors Morny, qui est-ce? C'est le demi-frère de Napoléon, il est fils aussi d'Hortense, c'est un fils illégitime, ou fils naturel, donc qui est né d'une liaison d'Hortense avec le comte de Flahaut, F-L-A-H-A-U-D, et qui est lui-même fils de Talleyrand, l'ancien ministre, ex-évêque des Fouquet, et puis qui fut ministre des Affaires étrangères, qui survivait à tous les régimes. Donc, fils d'Hortense et de Flahaut, Morny, demi-frère de Napoléon, qui lui ressemble vraiment, puisqu'ils sont frères, et qui sera un personnage, encore une fois, important, un grand bonhomme du Second Empire. Voilà. Alors, je veux parler, bien sûr, du mariage de Napoléon III avec Eugénie de Montijo, dans la première émission. Donc, au préalable, on peut mettre le projecteur sur sa personnalité. Donc, je dis, il avait été président élu le 10 décembre 1848 de cet éphémère Deuxième République. C'est un personnage mystérieux, on va dire. C'est un comploteur né. Il a été élevé par sa mère, Ses parents étaient séparés. Hein. Le frère de Napoléon, Louis, c'était un mauvais ménage. Hein, voilà. Et donc, sa mère veuve élève l'enfant, bonne éducation, mais il est élevé dans le culte de Napoléon Ier, de l'épopée napoléonienne. Voilà. Il va faire deux tentatives de coup d'État sous Louis-Philippe, hein. Mais ça va échouer à Boulogne et à Strasbourg. Il sera emprisonné à la forteresse de Ham, après le coup d'État manqué de Strasbourg. Hein. Et il va s'en évader. Et alors, anecdote, c'est peut-être de là que lui vient son surnom de Badinguet, parce que suivant la légende, il s'est effectivement évadé en déguisant maçon. Il y avait des travaux, une échelle sur l'épaule, bon. Mais on dit que le maçon qui lui avait prêté ses vêtements, s'appelait Badinguet. Bon. Mais en fait, c'était plutôt un sobriquet peu aimable, hein, qui faisait allusion à sa niaiserie, fausse niaiserie. Parce que c'est un personnage mystérieux, il avait souvent les yeux mi-clos, il était très silencieux, mais en réalité, il était cultivé, hein, polyglotte, il avait vécu, son éducation s'était faite dans plusieurs pays, il y avait un petit côté cosmopolite, en Allemagne, en France, en Angleterre, et même aux USA, voilà. Donc il parlait plusieurs langues, voilà. Et puis bonne éducation, et il était habité par toutes sortes de rêves, de chimères. C'était l'homme des complots, on l'a vu, et puis ça finira par réussir, hein, puisque son coup d'État, en tant que président, eh bien, réussira. Ça sera un coup de maître. Mais il avait aussi des idées, c'était un socialiste. Il avait écrit un traité pour l'extinction du paupérisme. Voilà. Il était habité par la cause sociale. Voilà. Et donc il va épouser à 45 ans Eugénie. Alors d'autres précisions, son coup d'État sera confirmé, si vous voulez, par c'est les plébiscites, hein, sous Napoléon III. Cette pratique des plébiscites qui sont une espèce de référendum, mais c'est plutôt êtes-vous pour ou contre moi, quoi. Voilà, c'est l'ancêtre du référendum. Et d'ailleurs, les référendums qui ont été pratiqués surtout sous De Gaulle étaient qualifiés de plébiscites, hein, parce qu'on oublie la question posée, en réalité, concrète, hein, et en fait, on vote pour ou contre l'homme au pouvoir, hein, c'est ça, c'est une déviation. Donc il y a plébiscite du 20-21 décembre 1851, alors là c'est un coup d'État, mais approuvé, hein, il est populaire, le peuple vote massivement pour le Louis-Napoléon, hein, pour entériner le fait accompli. Par exemple, il y a eu 7.481.231 oui, hein, au fait accompli, disons, décembre 1851, contre 647.292 non. Voilà. Et puis il y a eu ensuite l'Empire, c'était d'abord une espèce de dictature, et puis transformé en Empire, alors là c'est un senatus consulte, bon, un acte pris par le Sénat, mais entériné là aussi par un plébiscite soumis au vote populaire, mais ce sont uniquement les hommes, hein, qui votent à l'époque, le 7 novembre 1852, oui, il instaure l'Empire par le senatus consulte, une loi, on parlera dans nos prochaines émissions un petit peu, mais on va pas faire une conférence, un cours de droit, quoi. Alors, on évoquera le régime tel qu'il est, du point de vue constitutionnel, hein. Il y a un Sénat, il y a un corps législatif, il y a un Conseil d'État qui joue le rôle qui est aussi un organe législatif, mais en fait, il faut bien dire que c'est l'autoritarisme total, hein. Tout ce qui est parlement, le législatif est une pure chambre d'enregistrement, hein, sous Napoléon III. Hein. Le régime ne se libéralisera que vers 1860, dans les 10 dernières années. Donc, Sénatus du 7-11-1852 rétablit l'Empire et entériment, là aussi, par un vote populaire, plébiscite du 21 novembre 1852 par 7.824.129 oui contre 253.149 non. Donc même s'il y a des pressions, hein, il y a un système de pression, mais bon, c'est quand même un vote massif. Et par exemple, on s'y tranche par Georges Sand, on évoquait, il fait partie de cette période, entre autres, elle écrit que, quoi qu'il en soit, même s'il y avait des pressions officielles, eh bien, le vote totalement libre n'aurait pas été autre. Le peuple, notamment le peuple rural, était massivement pour Napoléon et pour ce Second Empire. Et donc, je l'ai dit, il va épouser Eugénie de Montiro à l'âge de 45 ans. C'est une les grands d'Espagne, c'est un, la haute aristocratie espagnole. C'est pas vraiment un mariage de grande politique, hein, mais c'est un mariage aussi de cœur, mais qui n'est pas du tout, on va dire, une mésalliance, hein, loin de là. Et donc, elle est née en 1826, donc elle a, elle, 25 ans. Elle mourra très tard, hein, d'ailleurs. L'empereur lui mourra en 1873, après la chute de l'Empire, 3 ans après. Elle mourra seulement en 1920, à 94 ans, en Espagne, hein, à Madrid, son pays natal. On peut le dire là aussi, ils auront un fils, on y reviendra, Louis-Napoléon, fils unique, qui naît en 1856 et qui mourra d'ailleurs jeune, il mourra en 1879, alors que la famille impériale se sera exilée en Angleterre, et il s'est engagé dans l'armée britannique. Ils ont été accueillis par Victoria, leur ami, leur éternel ami, et il s'engage dans l'armée britannique, il meurt à 19 ans chez les Zoulous, en Afrique du Sud, voilà. Eugénie aura une influence tout au long de... Elle prendra de l'influence au cours du règne. Elle deviendra un personnage important. Hein. Donc il se marie le 29 janvier 1853, mariage civil, et mariage religieux le 30 janvier 1853 à Notre-Dame de Paris. J'ai raconté dans une précédente chronique toute cette stratégie amoureuse, parce que elle a su se faire épouser, il faut le dire. Hein. Il aurait aimé en faire sa maîtresse, mais elle a exigé l'anneau, disons, le passage par la chapelle, avant de se donner à lui. Longue stratégie qui a duré 2 ans. Mais bon, elle était une impératrice très digne, bien sûr, grande dame. Néanmoins, au fil des années, et notamment vers le milieu et la fin de l'Empire, elle prendra de plus en plus d'influence, parce que Napoléon a beaucoup de maîtresses. C'est un homme à femme, il a énormément. Elles n'ont pas d'influence sur sa politique, mais certaines sont connues. L'impératrice, comment dire, va, au fil des ans, trouver un exutoire. Elle-même, elle n'est pas très, on va dire, attirée par le sexe. C'est un petit peu la cause, parce qu'elle finira par se refuser à lui. Elle ne voulait pas d'autres enfants, hein, après la naissance du prince impérial. Elle n'en voulait pas d'autres, donc tout simplement... Il serait condamné à la chasteté, donc elle lui ferme sa chambre, et donc il a des maîtresses. C'est un peu, ça évoque aussi le cas de Louis XV et de Marie Leszczynska, par exemple. Louis XV avait beaucoup de maîtresses, parce qu'au final, sa femme, après l'avoir fait peut-être 8 enfants, eh bien, se refuse. Et donc, Louis-Napoléon, lui, c'est un vrai Casanova, c'est presque pathologique, hein, voilà. Et elles n'ont pas d'influence, mais c'est un exutoire pour l'impératrice d'être un peu humiliée ainsi. Elle s'intéresse, elle se passionne pour la politique et pour le pouvoir. Hein. Et elle va exercer de plus en plus d'influence au fil des ans. L'empereur, qui a 20 ans de plus qu'elle, donc en plus, sa santé va décliner, il va devenir vieillissant, et donc elle va s'installer de plus en plus fort, disons, dans la décision. Elle va, par exemple, siéger au Conseil des ministres, et ce qui est peu connu, elle sera régente à plusieurs reprises, des périodes éphémères, mais lors d'un voyage en Algérie, de l'empereur, lors de la campagne d'Italie, on va en parler aujourd'hui, de sa campagne d'Italie, il aura lui aussi sa campagne d'Italie, comme son oncle, comme le jeune général Bonaparte, en 1796, l'empereur, eh bien Napoléon III, son neveu, aura sa campagne d'Italie. Elle sera régente là, pendant cette période, et aussi en 1870, donc dans les derniers mois, eh bien, également régente. Et là, par exemple, au moment de la période que nous avons évoquée, il va soutenir l'unité italienne, il va soutenir le Piémont, le roi Victor Emmanuel II et son premier ministre Cavour contre l'Autriche, et pour l'unité, c'est pas vraiment l'unité italienne, on y reviendra, que lui cherche, mais il veut, dégager l'Italie de l'oppression autrichienne, et il veut aussi, donc il soutient un Piémont qui va s'agrandir, hein, toute l'Italie du Nord, on va voir ça. Mais donc pour en revenir à son épouse, Eugénie, donc elle va à ce moment-là être nommée régente, c'est-à-dire que si l'empereur venait à décéder, bon, elle exerce les affaires, c'est les affaires courantes, et puis elle serait au nom de son fils, puisque devenue mère, on le sait, dans un régime dynastique, c'est souvent, pas toujours le cas, mais c'est souvent l'épouse qui, si elle devient veuve, qui exerce la régence pour son enfant, pour l'héritier du trône. Et elle va y prendre goût. Et puis, au fur et à mesure, même l'empereur présent, eh bien, elle siégera au Conseil des ministres, elle prendra la parole. La timidité des débuts est bien oubliée. Elle parle aux ministres, aux ambassadeurs, elle fait connaître ses opinions, et notamment dans cette guerre italienne, elle fait partie de ceux qui sont contre, et elle ne se gênera pas pour le faire savoir. Il faut bien dire toutefois que son influence sera plutôt néfaste. Sera néfaste parce que là, elle est contre, parce qu'elle est très catholique, elle a des idées, des sentiments, pas vraiment une doctrine politique compliquée, mais donc elle est d'abord mère, elle veut assurer le trône de son fils, probablement maladroitement, mais ça va échouer. Elle est très catholique, donc elle veut pas qu'on touche un cheveu du pape et aux états du pape, donc elle est contre tout ce qui peut nuire à la papauté, voilà. Et puis là, elle va exercer cette influence. Et par exemple au Conseil des ministres, eh bien on a cette anecdote où parfois elle prenait la parole et puis le ton montait sa voix devenait cassante parfois, et Napoléon, son époux, parfois lui murmurait à l'oreille, il avait un accent un peu peut-être allemand, elle disait, quand le ton montait, elle disait Eugénie, Eugénie, ou bien il lui tirait la manche, voilà, parce que elle devenait aussi autoritaire, et donc c'était d'ailleurs, alors que lui était plutôt socialiste, il avait des idées très généreuses pour le peuple, il était proche des patriotes italiens, et puis pour l'unité italienne, républicain en fait, hein, et elle était très conservatrice. Il l'a qualifié de légitimiste, voilà, était pour un gouvernement autoritaire. Donc nous allons retrouver nos personnages après la pause musicale, et nous allons entrer dans notre sujet du jour, j'ai pris un peu de retard, la campagne d'Italie, voilà. Nous nous retrouvons dans une poignée de secondes ou de minutes.